Ce matin, j'ai eu à cœur de vous parler dans le prolongement de ce qui a pu être dit ces dernières semaines, de la soif et du désir d'intimité que Dieu a, parce que nous ne l'avons pas, c'est clair au départ. Le désir d'intimité que Dieu a pour nous. Il a ce désir que nous entrions dans son intimité, dans sa présence, dans son sanctuaire, dans l'épître, la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 4 à 6, l'apôtre Paul dira ceci, « Car le Dieu qui a dit que la lumière brille au milieu des ténèbres, c'est lui-même pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile, pour que cette incomparable puissance soit de Dieu et non de nous. » Nous sommes donc appelés par le Seigneur à faire resplendir la connaissance de Dieu tout autour de nous, par l'Évangile. Mais, de la sorte, nous sommes appelés à connaître nous-mêmes le Seigneur, car comment parler de nous ? Et pour nous, il est important de ne pas rester au seuil de la vie chrétienne, de ne pas rester sur le seuil, à l'entrée de ce que Dieu veut nous donner, veut nous communiquer. Et dans le plan, sur le seuil du plan dans lequel il veut nous faire marcher, nous sommes appelés à faire resplendir l'Évangile, la connaissance de Dieu par l'Évangile. Il existe trois stades de relation. Je dirais que, hélas, nous sommes tous passés par la case départ. Le premier stade de relation avec le Seigneur, c'est simple. C'est l'état de mercenaire. Vous savez ce que c'est qu'un mercenaire? C'est quelqu'un qui vend ses services. Alors quelque part, le mercenaire, il cherche un profit. Et le mercenaire, dans l'esprit de ce que je veux dire, et dans l'esprit dans lequel Jésus l'a dit, mais on le verra ça une prochaine fois, parce qu'on va passer dans plusieurs parties. Le mercenaire, eh bien, dans l'esprit dans lequel le Seigneur l'a dit, c'est celui qui sert Dieu, mais à cause du bien que Dieu lui fait. Et c'est vrai qu'on est tous comme ça, au début on est enthousiaste parce que Dieu nous fait du bien. Mais si Dieu arrête de nous faire du bien, on est un peu moins enthousiaste, n'est-ce pas? Et on passe tous par ce stade-là au départ. Ça c'est le premier stade de relation avec le Seigneur. C'est en gros quelque part unilatéral. C'est parce que Dieu nous donne, c'est donne et je reçois. Et puis il y a le deuxième stade, qui est le stade du serviteur. Et là, le serviteur, c'est celui qui obéit à la parole. C'est celui qui a un esprit de service et qui est toujours prêt, comme l'apôtre Paul, dès sa conversion, qui dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Il est déjà prêt, il est disposé à servir le maître qui vient de se révéler à lui. Il vient de découvrir le Seigneur et déjà il a cet esprit de serviteur. Alors il y en a effectivement qui ne passent pas par le stade 1 directement. Mais vu les états de service de Saul de Tarse, on peut comprendre eh bien, que sa réaction immédiate, lui qui avait persécuté l'Église, lui qui avait persécuté le nom de Jésus, eh bien, était tout simplement de se mettre à son service puisqu'il venait de recevoir la révélation de qui était Jésus et surtout du fait qu'il s'était trompé, les écailles étant tombées de ses yeux aveugles. Évidemment, l'esprit de serviteur qui est là et qui est bien, c'est une telle personne va être en bénédiction aux autres, en bénédiction à l'ensemble du corps de Christ, à l'Église, et surtout va rechercher l'unité de ce corps. Voilà l'esprit du serviteur dans l'Église, il recherche l'unité. Et puis, le dernier stade, et Jésus l'a dit, c'est dans Jean chapitre 15, c'est l'ami, l'amitié avec Dieu, l'amitié avec Christ. Et l'ami, tout simplement, il expérimente la puissance de la vie de résurrection du Christ, et il se laisse transparence de son Seigneur. Voilà qui est l'ami, un ami. Et le véritable ami aime en tout temps, dit le proverbe. Le véritable ami aime en tout temps. Nous savons que le véritable ami, avec un grand V, c'est le Seigneur. Mais si toi tu veux être un ami pour le Seigneur, un vrai ami, si tu veux goûter à l'amitié de Dieu, eh bien, tu dois aimer en tout temps. Aimer le Seigneur en tout temps, même quand les circonstances ne s'y prêtent pas. Et c'est ce qu'a fait Job. Peut-être que Job s'est lamenté, mais Job a aimé le Seigneur, il n'a pas cessé d'aimer l'Éternel. Malgré ses souffrances, il s'est révélé un homme de Dieu. Il s'est révélé quelqu'un de fidèle, un ami pour Dieu. Abraham est resté l'ami de Dieu, malgré les turpitudes, malgré les difficultés, malgré parfois l'incrédulité qui a pu le caractériser à certains moments. Mais il était aussi un homme de foi. Et des fois, ça se mêle. Et il a été jusqu'au bout, et il était un véritable ami pour Dieu. Dieu l'appelle son ami. Et l'amitié de Dieu, c'est quelque chose de précieux pour nous, mais c'est aussi précieux pour lui. Il aime. Regardez, considérez l'amitié que nous avons avec lui. Dans amitié, vous avez âme. Hein? L'amitié, c'est un peu donner son âme. C'est abandonner toute son âme. Vous savez ce que c'est l'âme dans la Bible? C'est le siège de la volonté, de l'intelligence, des émotions. Quand on donne toute son âme, on donne son intelligence, sa volonté, ses émotions, on met tout cela au service de Dieu pour que ce soit purifié, pour que ce soit sanctifié et pour que ce soit canalisé par la volonté de Dieu. Et si on mettait nos émotions au service de Dieu, on ne serait pas débordé par nos émotions qui parfois nous trompent. Si on mettait toute notre volonté au service de Dieu, eh bien, il y a bien des choses qu'on ne ferait pas et qui finalement ne nous feraient pas de mal. Et on serait plutôt beaucoup plus heureux de faire ce que Dieu veut que nous fassions plutôt que faire ce que nous voulons nous et qui nous mène bien souvent dans des voies de traverse, du chemin de traverse. Et puis, donner aussi notre... parce que notre intelligence peut nous tromper. Parfois, elle produit des faux raisonnements, elle écoute des faux raisonnements. Et ces faux raisonnements nous conduisent à l'incrédulité. Alors qu'une intelligence renouvelée, une intelligence sanctifiée, régénérée par le Seigneur, va nous conduire à avoir l'intelligence de la foi. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans son épître aux Colossiens, nous disait d'être revêtu d'intelligence spirituelle. Une intelligence renouvelée, une mentalité renouvelée. Cela nous a été communiqué il y a quelque temps, le frère passé nous a parlé de ce renouvellement de la mentalité. Et nous avons besoin réellement d'être renouvelés dans notre mentalité. Dans l'épître aux Philippiens, chapitre 3, versets 10 à 14, l'apôtre Paul va nous montrer quel devrait être notre but. En tout cas, son but était clair. Et nous, il n'est pas suffisamment clair parfois. Il disait, mon but est de le connaître. C'est clair, net. Il ne tourne pas autour du pot, l'apôtre Paul. Ce n'est pas ce genre d'homme. Mon but est de le connaître, lui, ainsi, de sa résurrection et la communion de ses souffrances. En fait, il veut s'identifier pleinement à Jésus en expérimentant la connaissance de Jésus. En devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Je ne croyais pas arriver, l'apôtre Paul. Mais je poursuis ma course, afin de dire que moi aussi, j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, imaginez, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Et beaucoup de chrétiens devraient un petit peu arrêter de se pencher sur ce qui est en arrière, sur le passé. Et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, et il ne marche pas, il court, vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ. Rappelez-vous le but, hein, le but c'est quoi? Voilà, c'est de le connaître, il y en a qui suivent quand même. Donc il court vers le but, c'est-à-dire vers le fait de le connaître, pour obtenir le prix de la vocation, donc une récompense concernant l'appel céleste de Dieu en Christ Jésus. Première question, frères et sœurs, qu'on peut se poser pour faire un petit bilan de notre Église, le bilan de notre vie chrétienne, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Des fois c'est un point d'interrogation, hein. C'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation, parce que je sais que certains d'entre nous, peut-être, se posent tout simplement la question où j'en suis, dans quelle étagère. Il nous faut avoir les idées claires, comme l'apôtre Paul, avoir un but bien précis. Il nous faut sortir des habitudes. Il ne faut pas que la rencontre, qu'est ce culte, devienne un devoir religieux, une corvée. Sinon, restons chez nous, hein, moi je vous le dis. Tant je n'encourage pas vraiment à ne pas venir au réunion, hein. Beaucoup m'en sont témoins. Mais si c'est juste une corvée ou un devoir religieux, ça ne sert à rien, vous allez vous faire du mal. Il faut que ce soit clair dans notre esprit, dans notre cœur. Si nous venons et que c'est juste un rituel et que nous sommes négligents, paresseux et indifférents, ça ne sert à rien. Ce qui fait la différence dans nos rassemblements, c'est la présence du Christ. C'est sa présence au milieu de nous. Si nous sommes incapables de l'apercevoir, si nous n'avons plus cette soif, cette faim de Dieu, nous allons rester comme un bloc de glace. Et j'en ai connu dans ma petite carrière, des blocs de glace chrétiens. Des gens de foi, mais qui sont devenus des icebergs. Plus capables de recevoir, plus capables de percevoir, parce que trop dans les habitudes, trop dans peut-être tout simplement d'être resté à l'entrée de la vie chrétienne, pas vouloir s'être engagé plus loin. Et de ce fait, eh bien, on perd le fil conducteur, on perd la vie que Dieu avait implantée en nous par Christ. Certains vont essayer de paraître le plus chrétien possible pour tout simplement échapper à la perdition. Ah oui, on a quand même un petit peu peur d'être perdu pour l'éternité. On a un petit peu peur quand même de cette réalité que peut-être l'enfer, la vie éternelle sans Dieu. Alors, on se dit, tiens, je vais quand même faire mon devoir religieux. Ça me mettra plus de chance dans la balance, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est radical la conversion. Soit je suis du côté de Jésus, soit nul ne peut avoir deux maîtres, car il, ou bien il aimera l'un et aimera l'autre. On ne peut pas avoir deux maîtres. Et aussi une question, puisqu'on en est au stade des questions qu'on devrait se poser, et on a pu se la poser à travers ce chant que nous avons chanté. Tu es digne, toi l'agneau immolé. C'est un chant extraordinaire parce que même ma femme, elle était perturbée par ce chant. Un jour, je me réveille, elle était en train de chanter pendant la nuit ce chant-là. Tu es l'agneau immolé. C'est un puissant chant. Hein. Elle s'en rappelait plus le matin. Moi, je l'ai entendu le chanter. Ça m'a réveillé. La troisième question qu'on peut se poser, donc, c'est croyez-vous ou croyons-nous que Jésus ait souffert et donné sa vie sur la croix, juste pour lier vaguement connaissance avec nous. Hein? C'est un peu léger quand même. Le Christ est mort pour nous véritablement, qu'on entre dans les profondeurs de sa connaissance. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans le livre de l'Apocalypse, quand on lit les reproches qui sont faits aux différentes églises, à un moment donné, il est dit qu'une certaine église, elle a laissé le trône de Satan être là. Une autre, c'est écrit les profondeurs de Satan. Mais est-ce que nous, on n'aimerait pas goûter plutôt les profondeurs de Dieu? Ça serait beaucoup mieux. Pensons aussi à cette église qui fait donner dans le livre de l'Apocalypse, Laodicée. Les croyants sont considérés comme aveugles sur leur état, nus, plein de nudité. Ou Sardes, qui est considérée comme passant pour vivante, quoique morte. Et parfois, on peut passer pour vivant, mais en fait, elle est déjà morte spirituellement. C'est pour ça qu'il nous faut nous laisser saisir par le Seigneur. Le frère Emmanuel nous a parlé de cette soif de Dieu. Il était nécessaire qu'on soit déterminé, comme l'apôtre Paul, avoir un but, le connaître, marcher dans ce but. Et croyez-moi, quand on se fixe des objectifs, les chefs d'entreprise le savent. Si on se fait un business plan, si on se met un objectif, eh bien, et qu'on va dedans pour la réussite de l'entreprise, eh bien, c'est un peu pareil pour notre vie chrétienne. C'est peut-être pas une entreprise, quoique notre vie, c'est une entreprise aussi. Nous devons avoir un but. Et si nous ne nous focalisons pas sur le bon but, le connaître, faire tout pour cela, faire des expériences dans la vie chrétienne, faire des expériences pendant nos rencontres, marcher avec le Seigneur vraiment pour le rencontrer, faire des expériences dans la vie quotidienne, lire sa parole, étudier sa parole, recevoir sa parole, s'enrichir de sa parole, recevoir le Saint-Esprit, nous laisser communiquer la pensée de l'Esprit, s'abandonner complètement à Dieu. Alors là, on va vraiment entrer dans le but. Mais ça, et puis qu'on subit tout simplement. On subit. On n'entre pas dans les choses, on subit. On reste là, sur le seuil. On attend que ça se passe, on peut attendre longtemps. Dieu ne force pas les barrières, Dieu ne viole personne. Dieu est un gentleman. Et c'est à nous de venir à lui. Il nous a maintenant ouvert la porte. C'est à nous d'entrer dans les choses, dans les plans qu'il a pour nous, dans ses projets pour nous. Et nous avons besoin d'être déterminés pour cela, d'être décidés de savoir ce que nous voulons et de le connaître. Je me souviens d'un frère qui nous disait être allé dans un endroit où il ne connaissait pas en vacances, et évidemment il ne savait pas où était l'église, mais il était déterminé le dimanche à se rendre à l'église. Il avait déterminé qu'il irait en vacances. Il a roulé un certain temps, et il a fini par trouver l'église. Dieu l'a vraiment conduit, et il a trouvé l'église. Pourtant, c'était une ville assez immense. Je crois que quand on est déterminé, il se passe des choses. Et je fais pour nous, en tout cas. Mais Dieu n'agit pas avec les indécis. Dieu agit avec les gens qui sont décidés, qui sont déterminés. Tu veux être guéri? Jésus dit, veux-tu être guéri? Ça peut paraître bizarre. Il dit ça à une personne qui est depuis 38 ans paralysée sur une piscine à Bethesda. Veux-tu être guéri? Ça paraît fou. Ben, le Seigneur, il est un peu synoptique quand même. Il voit la personne, ça, il sait que ça fait 38 ans qu'elle est paralysée, il lui dit, veux-tu être guéri? Eh bien oui, parce qu'il fallait que la personne ne veuille. Dieu ne viole personne. L'homme, on a parlé de Bartimée l'aveugle, cet homme qui criait, fils de David, aie pitié de moi! Il a fait en sorte que sa voix se fasse entendre au milieu de la foule pour que Jésus l'entende. Il était déterminé et il était guéri de sa cécité. Et combien comme ça, le long du chemin, quand Jésus est passé, eh bien, était déterminé à toucher Jésus et à recevoir de lui la guérison ou la transformation ou une vie nouvelle. Zachée, qui est monté sur un sycomore parce qu'il était de petite taille et qui s'est fait voir à défaut de se faire entendre, que j'imagine que sa voix était aussi petite que lui. Et Jésus l'a vu, il a dit, hâte-toi parce que je vais venir dans ta maison. Et ça a tout changé, ça a bouleversé Zachée. Je ne sais pas si vous réalisez, cet homme était considéré comme un collaborateur des Romains parce qu'il était publicain, c'est-à-dire qu'il était collecteur d'impôts pour eux. Et si vous lisez dans le contexte historique de l'époque, quelqu'un qui était collecteur d'impôts, il collectait pour les Romains, mais il se mettait des commissions dans la poche. C'est pour ça que quand il était transformé dans son cœur après que Jésus soit venu dans sa maison, il est dit qu'il a restitué 4 fois plus que ce qu'il avait pris aux autres. Principe de restitution, signe d'une véritable conversion et repentance. Vous savez, des gens viendront vous demander pardon superficiellement. Moi, je crois que, par exemple, quand on a fait une offense publique, par exemple, si on offense toute une assemblée, là, en public, on doit venir se repentir vraiment et demander pardon. C'est ça la vraie conversion, le vrai courage et la vraie radicalité, quelque part, d'une vie qui est vraiment livrée à Christ. On peut commettre des fautes, on peut commettre des erreurs, mais il faut savoir aussi venir réparer ce qu'on a détruit. Mon but, quel est mon but? Ton but est-il de le connaître, mon frère, ma soeur? Alors cours dans ce but, montre à Dieu ta détermination, parce que tant que tu ne lui montreras pas, il ne se passera pas grand-chose. Il faut avoir soif, il faut avoir faim. Nous avons besoin d'un réveil, c'est pas un secret, un réveil personnel. Moi, j'attends pas seulement le réveil du pays, moi j'attends le réveil personnel, mais je ne l'attends pas. Je me réveille chaque jour. Et quand je sens que je m'endors, je me réveille. On a toutes les capacités pour nous réveiller spirituellement. Nous avons besoin de réveil, nous avons besoin de prier. Celui qui ne prie pas ne sera jamais réveillé. Nous avons besoin d'apprendre à prier comme Jésus, nous avons besoin même d'apprendre à jeûner. Vous croyez que le jeûne et prière du samedi à 12h30, c'est ça le vrai jeûne? Ce que c'est le jeûne biblique? Le vrai jeûne de la Bible, je vous invite à lire les passages et vous comprendrez. Je ne vais pas les mentionner, mais dans le jeûne et la prière, quand on prend du temps, Dieu se révèle, Dieu se manifeste, Dieu communique sa puissance, Dieu fait des choses extraordinaires. Et ce type de discipline, frères et sœurs, ce n'est pas pour une élite. Ce n'est pas pour une élite, c'est pour ceux qui ont faim et soif de Dieu, tout simplement. Il n'y a pas d'élite. Il n'y a pas les meilleurs, il n'y a pas les as, il n'y a pas les champions. C'est tout simplement ceux que vous voyez qui excellent dans ces choses, ce sont tout simplement ceux qui ont faim et soif de Dieu. Ce n'est pas des surhumains, ce n'est pas des surcapables. Ils n'ont pas des surcapacités. Ils sont comme vous, mais ils ont fait un choix radical. celui de suivre l'agneau partout où il va, suivre Jésus partout où il nous conduit. Et à cause de cela, eh bien, à cause de cette faim et de cette soif, il communique des choses que peut-être vous n'avez pas parce que vous n'avez pas fait comme les autres, avoir cette faim, avoir cette soif. Et attention, il y a des types de soif qui ne sont pas bons. J'ai connu des gens qui étaient soif. On a vu ce que ça donnait, ils ne sont plus là. Parce qu'attention, on peut se séduire avec ces choses-là, et ça a amené des choses complètement désordonnées. Ce n'est pas de cela qu'il nous faut. Notre soif doit uniquement être une soif de Dieu lui-même, et non pas des expériences qui vont avec, mais la soif de Dieu. Et la soif de Dieu nous conduit dans des expériences bénéfiques, des expériences qui vont nous procurer la paix, la joie. Et ce sont des choses dont le corps même, la santé a besoin, la paix, la joie. Et c'est parce que Jésus-Christ n'a pas assez faim, elle est trop endormie dans les sédatifs, par les sédatifs du confort de ce monde, des séductions de ce monde, et elle est sous-alimentée, alors qu'elle dispose de la parole puissante de Dieu. Sous-alimentée parce qu'elle ne s'alimente pas elle-même, les croyants se contentent du message du dimanche, ou d'un feuillet à l'éphéméride accroché dans les WC, ou ne sais où, dans le placard. Hein ? Oui, c'est comme ça que ça se passe. J'ai visité plusieurs maisons, c'est pour ça que j'ai vu. Attention à la sous-alimentation. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Nous devons donc, dans un deuxième temps, réapprendre à avoir faim. Savez-vous que les enfants qui meurent de malnutrition, eh bien, ils ne peuvent rien ingurgiter. Elle n'essayait jamais que des tiques parce qu'il va rendre toute la nourriture, parce qu'en fait, il n'a plus la capacité de ressentir la faim. Il y a tellement longtemps qu'il n'a pas mangé à satiété, il n'a pas mangé en étant rassasié, du coup, on ne peut pas nourrir de force. Ces gens, il faut les nourrir de force, mais à petite quantité, jusqu'à ce que leur organisme réapprenne à ingurgiter les aliments et en même temps à faire la différence entre la faim et le rassasiement. Ils sont plus capables. On va de même de l'Église pour qu'elle ait toujours plus faim de Jésus. Parce que parfois, quand on n'a plus faim depuis longtemps, on n'arrive pas à avoir faim. Quand on a été flemmard, paresseux spirituellement, difficile hein, de reprendre la route, de reprendre le chemin. Dans Actes 19, verset 2, à Éphèse, il s'est passé quelque chose. L'apôtre Paul pose une question à des croyants. « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire. » Moi, je regrette, ce n'est pas pour eux que je parle uniquement. Mais des fois, comme ces croyants d'Éphèse, on reste sur le seuil de la vie chrétienne et on se contente de cela. On reste au bord des marches, au bord de la marche, sur le seuil. Et on ne peut rien vivre de plus que l'accès au salut. On est content parce qu'on est sauvé, c'est bon, c'est tout. Alors que Dieu a une vie abondante en réserve pour nous, une vie profonde en réserve pour nous, qui a fait dire à Pierre, à Jésus, avance en eau profonde, avance en eau profonde. Et quand, avec sa barque, Pierre est avancé en eau profonde, il est entré dans le miracle de Dieu. Il est entré dans le miracle quand Jésus lui-même savait combien il y avait de poissons dans le banc dans lequel il l'a amené. Alors que Pierre, pourtant professionnel, avait pêché toute la nuit sans rien prendre. Et là, quand le Seigneur lui dit là où il faut aller, le miraculeux se produit. Et c'était le miraculeux dans sa profession, c'est extraordinaire. Des fois, on se croit capable. Nous avons tous certaines capacités, mais des fois, on est dépassé, même dans sa profession. Quand tout se mêle, quand les ennuis viennent, moi j'ai pu expérimenter le doigt de Dieu sur des choses qui me... J'étais submergé de travail et je me disais jamais j'y arriverais, c'est terminé, je vais craquer. Ça s'ajoutait. Et j'étais, ben c'est quand on était dans le culte, on était encore dans le confinement, le deuxième, et j'étais sur un... Le frère qui est venu ici, le frère, comment il s'appelle déjà, David Davo, qui a prophétisé et qui disait, eh bien, qu'il y avait des personnes qui étaient submergées par un travail administratif et que Dieu allait les aider en mettant son doigt puissant dans les choses. Et j'ai pris cette parole pour moi et quand je suis allé au travail le lundi, j'ai vu Dieu retirer un à un les problèmes. Quand je voulais les résoudre, ils étaient déjà partis, ils n'existaient plus. Quelqu'un s'en était chargé, ou alors c'était pris en charge autrement, enfin, j'en revenais plus, et j'ai perdu le stress. Et depuis, j'ai d'ailleurs décidé de ne plus être stressé par le travail. Voyez-vous, que ça sert à rien, ça n'apporte rien. Jésus a vraiment une vie abondante pour nous. Il nous aide dans nos difficultés quotidiennes, même dans notre travail. Il l'a fait pour Pierre avec sa barque de pêcheur. Il l'a fait lors du mariage à Cana. À chaque fois, il est venu dans la vie quotidienne des gens, toucher quelque chose et les faire entrer dans le miraculeux. Le but, c'est donc de fusionner. Alors, je rappelle ce verset 14, dans une autre version, le semeur, je poursuis ma course vers le but qui est de le connaître, pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a dressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Le but est donc de fusionner avec Jésus. L'Église n'est-elle pas appelée à fusionner puisqu'elle est l'épouse destinée à l'époux? Et l'époux et l'épouse sont destinés à faire une seule chair normalement. Donc il y a cette fusion qui est nécessaire entre le corps de Christ et l'époux. Et dans cette union, Jésus nous dirige et nous obéissons alors sans réserve. Il nous faut adopter une vie dans le style biblique, marquée par la sanctification, par le respect de Dieu, la crainte de Dieu. Une telle relation nous met à sa disposition. Elle nous rend disponibles d'esprit, de cœur, de mentalité. Trop souvent, on est accaparé par sa vie quotidienne, par les choses extérieures. Mais si nous mettions Dieu au centre, nous verrions comme ce qui m'est arrivé dans le travail, bien du temps se dégager et on aurait plus de temps pour Dieu. Mais il faut qu'il soit notre priorité. Trop souvent, il est deuxième. Parfois troisième, mais souvent deuxième. Or, il est le premier et le dernier. Alpha et Oméga. Et c'est ainsi que nos vies peuvent devenir, en elles-mêmes, une adoration et le magnifier, le glorifier. Obéir à la parole, c'est l'héritage des saints dans la lumière. C'est ce que nous montre l'apôtre Paul. C'est pouvoir obéir à cette parole et la vivre, la mettre en pratique. Et réaliser ainsi que Jésus nous a jamais demandé de devenir des drogués de sport, des drogués du travail, des drogués de je sais pas quoi, et de simplement le caser lui quelque part dans notre emploi du temps surchargé. Jamais il nous a demandé ça. Au contraire, il veut nous aider pour qu'on ne soit pas surchargé. Comme ce qui m'est arrivé, c'était une bonne leçon. Parce que moi, je suis un peu assez boulot, normalement. Mais il m'a montré qu'il fallait que je me tout concilie, être pasteur et puis travailler, ça peut devenir compliqué à un moment donné, sans compter d'autres choses. Donc, il y a un moment, il y en a même qui m'ont demandé combien t'as de boulot. J'en ai compté 4. Alors, à un moment, il faut arrêter, quoi. Donc, il faut l'aide de Dieu. Et s'organiser, l'ordre, le repos, la paix, c'est important. Alors, comment est-il possible d'avoir soif de ces choses, mais pas de connaître mieux le Seigneur? Dans le psaume 138, verset 2, les paroles au-dessus de tout ton nom. Tout ton nom. Il a exalté sa parole au-dessus. Parce que cette parole doit nous nourrir, cette parole doit nous conduire, et cette parole, nous devons la respecter. C'est à cette parole qu'il nous faut obéir, pas aux hommes. C'est cette parole qu'il nous faut écouter, pas les inclinations de nos cœurs non plus. Pas nos faux raisonnements. Bien souvent, on met nos raisonnements avant la parole de Dieu. On dit avoir raison à la place de Dieu, qui dit au potier, t'as tort, moi j'ai raison. Ou l'horloge, qui dit à l'horloger, comme ça que ça marche, pas autrement. Et c'est terrible. Parlons aussi de nos motivations. Pourquoi lisons-nous la parole? Pourquoi faisons-nous tel ou tel service? Et même ceux qui sont dans le ministère. Moi j'ai vu dans le ministère, ça m'a frappé un esprit de compétition entre des pasteurs. Moi, ça me fait sourire parce qu'avec 1% ou 1, 2% de chrétiens évangéliques, esprit de compétition, je cherche où il est, moi. Esprit de rivalité, de l'égoïsme, parfois. C'est le péché qui revient dans nos vies, la chair. Et il faut toujours considérer nos motivations. Pourquoi je fais telle ou telle chose? Pourquoi j'exerce tel ministère? Pourquoi j'effectue tel service dans l'église? Pourquoi je fais ci? Pourquoi je fais ça? Parce que sinon, nous... L'apôtre Paul dira dans Philippiens chapitre 3, verset 8, « Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je Je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À la limite, l'apôtre Paul était prêt à abandonner son ministère pour connaître le Seigneur encore plus. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner le Christ. Qui serait prêt à remettre en cause son ministère? Il n'y en a pas tant que ça. C'est pour mieux connaître le Christ. Alors on peut faire les deux, vous me direz. Il vaut certainement mieux, mais lui, il était prêt à tout abandonner pour connaître le Christ. Poursuivre le but qui est de connaître le Christ. Connaître Christ était ce qu'il y avait de plus important aux yeux de Paul. Et vous avez déjà vu le chant qu'on chante, des fois, « Toi, mon essentiel ». Ça vous dit quelque chose, ce chant-là? À un moment, on dit « Toi, mon essentiel ». Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est, essentiel? Des fois, on chante des mots, on ne sait même pas ce que ça veut dire. C'est quoi l'essentiel? Vous allez me dire que c'est le principal. Le principal, c'est l'essentiel. C'est ce qui est vital. C'est l'essence même des choses. Voilà. C'est une question de vie ou de mort, même l'essentiel. Eh bien, l'apôtre Paul voyait l'essentiel. Le but de notre vie doit être de voir l'essentiel. Éphésiens chapitre 1, verset 5. Il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Il veut que notre vie devienne une adoration, une symphonie, un concert. Alors évidemment, le concert, c'est avec tous. Quand tous sont ensemble dans cette même pensée, ce même esprit, cette même âme, ce même sentiment d'être, eh bien, ensemble, cette faim et cette soif de Dieu. Alors que notre Église est faim, la réussite, vous savez, n'est pas un critère d'approbation divine. Il y en a, ils sont dans ce style, la réussite, réussir ça. Vous savez, même demain, s'il y a trois groupes de louanges, est-ce qu'on pourrait encore ajouter à l'Église 10 prédicateurs, 3 cultes? Vous croyez que c'est ça, la réussite? Parce qu'on peut avoir tout ça, mais ne pas connaître Christ. L'Odyssée, c'était plein de choses, plein d'œuvres, mais elle n'avait qu'une apparence, une enveloppe extérieure. Le reste, c'était du vent, et Jésus lui reproche. Cette Église était sans vie, en vérité. Parce que tu es misérable, aveugle et nu, dira Jésus. Alors, comment est-il possible que ça arrive? Ça arrive. Parce que, bien, on se laisse tromper par des raisonnements. La réussite n'est pas un critère d'approbation divine. Le culte des petits troupeaux, des petits groupes aussi. Mais vous savez ce que ça reflète? Peu d'intérêt pour les âmes. On se croit parce qu'on a un petit groupe. Vous savez, des fois, il y a des petites églises, des petits groupes. Mais ils se croient, ils se prennent pour le bastion de la foi de la ville. Ils sont contents, autosatisfaits, et ils croient qu'ils sont arrivés. Mais non, si on a vraiment l'amour pour les âmes perdues, on n'a qu'une envie, c'est que l'église grandisse. C'est même qu'il y ait plusieurs églises, parce qu'à un moment donné, on ne va pas acheter sans cesse des bâtiments, il faut plusieurs églises. Hein. Aux États-Unis, vous avez la première église baptiste à New York, la deuxième église, la première assemblée de Dieu, la deuxième assemblée de Dieu, First Assembly of God, First Baptist Church. Il y en a plusieurs. Là. Il peut y en avoir jusqu'à 15, 16, qu'est-ce que je sais? Parce qu'il y a des quartiers, c'est des grandes villes. Vous voyez, ils ont pas dit, mais tiens, notre église, c'est le baston de la foi, il n'y en a pas d'autres meilleurs que nous. Non, non. Quand on a l'amour des âmes, et on est capable de concevoir qu'il y ait d'autres assemblées, qu'on puisse se multiplier, et surtout on a le désir de croissance, et on a le désir d'évangéliser, et même d'agonner, ce qui s'appelle l'intercession, que certains ont déjà vécu, mais peut-être par ignorance ne sont pas allés au-delà. Mais croyez-moi, quand on prie avec le cœur de Dieu, les tripes de Dieu, dans notre cœur, dans notre hypanou, ça exauce les prières. Vous voyez des changements chez les gens pour qui vous priez. Je pourrais vous en parler longuement parce que j'en ai vu des choses par rapport à ça. L'intercession, c'est presque se mettre entre Dieu et la personne. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que vous voyez des personnes, pas toujours au rythme que vous voudriez, parce qu'il y a la volonté de la personne qui est en cause aussi, et si la personne ne se laisse pas faire, Dieu ne violera pas son intimité, on l'a dit. Mais prier pour les autres, de cette manière-là, avec des tripes, avec des pleurs, vraiment avoir les sentiments de Christ en nous, ça change totalement et radicalement notre vie de prière et le résultat qu'il y a au début. La stratégie du diable, c'est de faire oublier un verset important de la Bible, « Le zèle de ta maison me dévore ». Jésus a dit « Le zèle de ta maison me dévore ». Mais la stratégie du diable, c'est de communiquer, de susurrer aux chrétiens « Oh, perds pas ton temps avec tout ça, perds pas ton temps à la prière, perds pas ton énergie pour les perdus, de toute façon, ils ont trop de mal à se convertir, c'est pas la peine, ne prie pas, tu vois bien, ils se convertissent pas, 10 ans après, ils n'est toujours pas converti ». Ouais, mais il y a des gens qui se sont convertis à la 30e année de prière, voire même après la mort de la personne. Alors, Luc 18, verset 1, Jésus leur enseigna cette parabole afin qu'ils apprennent à ne jamais la prière. C'est la parabole du veuve, de la veuve et du juge unique. Il y a une autre stratégie que le diable a, c'est de nous faire oublier la prière agissante, ce type de prière justement, en nous faisant croire qu'elle est trop difficile à pratiquer. C'est pour une élite. Il y a peu d'espoir de gagner des âmes ou d'en faire revenir d'autres qui sont partis. Où est l'esprit de prière aujourd'hui dans nos églises? On va dire on n'a pas le temps, il y a trop d'activités. Il y a souvent des activités horaires. Pourtant, une des clés du vrai succès, le vrai celui-là, du déclenchement d'un mouvement d'esprit, c'est la prière. C'est ce qui a déclenché le réveil de la Corée. C'est ce qui a déclenché le réveil en Argentine et dans toute l'Amérique du Sud, parce que les grands-mères ont pris du temps pour prier. 2-3 grands-mères qui ont persévéré pour la nation et il y a eu un grand réveil qui continue jusqu'à aujourd'hui. La prière fervente du juste a une grande efficace. Du coup, on est si peu près de Dieu que l'adoration du dimanche est juste de chanter et à donner son offrande et surtout ne rien changer. Or, une rencontre comme celle-là ce matin doit nous changer, nous transformer. On doit repartir, il y a quelque chose qui doit être déposé dans nos cœurs, quelque chose de précieux. Et ne croyez pas que je ne sois pas convaincu que ce matin, il y a eu quelque chose de précieux déposé dans nos cœurs. Je ne le dis pas négativement, je le dis pour avertir, mais je suis convaincu que ce matin, dans nos cœurs, quelque chose a été déposé. Pas négatif, là, attention. On a vu la semaine dernière avec Sylvain la pratique du pardon aussi, dans les relations mutuelles. C'est quelque chose d'important également. Pour avoir un réveil, il faut ça. Moi, je me souviens d'un frère qui me racontait avoir prêché dans une église où il y avait une dame qui était courbée en deux. Vous savez pourquoi elle était courbée en deux? Parce que depuis des années, elle critiquait les autres. Elle était mauvaise langue. Et à force d'être dans l'amertume et dans ce péché, eh bien, elle en était venue être courbée. Et à cause de cela, son dos s'était courbé. Et on sait que la haine et le dos ont un rapport. Les médecins savent cela aujourd'hui. Quand il y a un manque de pardon, on peut avoir des problèmes de dos. Mais elle, c'était chronique, c'était fort. Vous voyez comme quoi il peut y avoir des gens qui ont une apparence, mais en même temps, eh bien, ils n'ont pas fait une véritable rencontre avec le Seigneur. Alors les remèdes bibliques sont une prédication vigoureuse, revêtue de l'onction du Seigneur, qui soit prophétique, c'est-à-dire qui a fait des problèmes de l'Église, qui parle au cœur de l'Église, ça c'est important. Paul a par exemple prêché longuement dans le livre des Actes, chapitre 20, à l'église d'Éphèse, jusqu'à ce que des gens même s'assoupissent. Il y en a même un qui est tombé de la fenêtre parce que l'apôtre Paul avait d'importantes choses à communiquer, il lui fallait du temps, et des fois il faut du temps, effectivement, pour communiquer certaines choses à l'église. Et l'apôtre Paul a pris le temps, il y en a un qui est tombé de la fenêtre. Mais en même temps, il est question de l'apôtre Paul et de ses compagnons dans Actes 17, verset 6. Des païens qui parlent. Ces gens qui ont mis le monde sens dessus dessous arrivent maintenant chez nous. Mon frère, ma soeur, si tu veux être un vrai chrétien, si je m'en réfère à une citation de David Wilkerson, le pasteur, un vrai croyant est un trouble fait. Eh oui, l'apôtre Paul et Barnabas et les autres ont mis le monde sens dessus dessous. Qu'on puisse dire la même chose de nous, qu'on met sens dessus dessous la ville de Charleville et toutes les Ardennes en prêchant l'évangile, en témoignant de Christ partout où nous pouvons. Est-ce que nous mettons en terre, même au niveau de nos proches, etc. Il nous faut aussi mettre fin au rayon de prière anémique. Et on y arrive, hein. On a des bonnes réunions de prière, et je vous invite à y venir, ceux qui ne viennent pas. Parce qu'on a de très bonnes réunions de prière, même si on n'est pas beaucoup, parce qu'il y a de la motivation. Et quand il y a la détermination, la motivation, même si on n'est pas beaucoup, nous on vit des choses que vous ne vivez pas, et que vous ne vivrez jamais si vous ne venez pas. On a de très bons moments, mon physique, et il y a la présence de Dieu. Et à chaque fois, je vois que même les croyants ne sont pas capables de ressortir du lieu. On s'était fait la réflexion avec Annie l'autre jour. Elle me dit, Tu te rends compte, les gens, ils s'en vont pas. Oui, parce que quand Dieu est présent, on s'en va pas facilement, parce qu'on est bien. On est bien. Ça me rappelle ce chant, on est bien dans la maison de Dieu. Idem, n'ayons pas des cultes anémiques. Nous devons rendre à Dieu un culte qui lui plaît, pas ce qui nous plaît, un culte qui plaise à Dieu. Et parfois, comme le disait le frère l'autre jour, ça passe même par la libre expression. Même dans notre corps, on doit apprendre un peu à s'abandonner, à se livrer au Seigneur. Moi, je ne sais pas trop mon fort au départ, hein, danser, machin, ça. Mais je fais quelques efforts, parce que je suis motivé. Bon, je me retiens, parce que chez moi, je suis bien capable de danser et de sauter. Vous ne me reconnaîtriez pas. Là, je fais le pasteur sérieux, quoi, ici, parce que sinon... Alors, ce qui m'a toujours frappé...
Ma mentalité, frère, vous savez.
Moi, j'avais un oncle, j'ai un oncle, pardon, il n'est pas mort. C'est un taiseux, il ne parle pas beaucoup. Quand il parle, c'est qu'il a eu un petit coup, ça l'aide. Mais c'est un taiseux. Mais alors, quand il va dans un match de foot, j'en revenais pas, moi j'étais tout calme, parce que moi, ça m'enthousiasme pas plus que ça. Alors lui, il se lève, parce qu'en espagnol, le taiseux, bizarrement, là, il... Et moi, je connais des chrétiens, ils sont pareils. Je sais pas ce qu'il va croire que je le vise, parce que c'est un fan de CSSA, c'est ça. Mais je veux dire que beaucoup de chrétiens m'ont surpris parce que souvent ils sont beaucoup plus enflammés pour le foot ou autre qu'au culte. Et puis si on leur demande, ils vont dire ouais, mais moi je suis réservé, c'est pas ma nature. Pourtant, c'est ta nature de t'exclamer au stade. Moi j'ai toujours le souvenir, j'étais en train de prêcher et d'un seul coup j'entends une clameur. Je croyais que c'était les chrétiens, mais non, c'était le CSSA justement, parce que j'étais à Sedan. Pourtant, c'était assez loin. Mais on entendait la clameur des gens qui sont au foot. Mais par contre, la clameur des gens qui sont au culte, on ne l'entend jamais. Même s'ils étaient en plein air, je ne suis pas sûr qu'on se entendu. Mettez deux Espagnols ou deux Sud-Américains dans une salle, vous n'avez pas encore ouvert la porte, vous avez l'impression qu'ils sont 50. Quand vous ouvrez, ils ne sont que deux. Parce qu'ils sont motivés. C'est vrai, c'est pas qu'une question de culture, ils sont motivés. C'est pas une question de personnalité. Où est ta motivation pour louer et adorer Dieu dans ta vie de tous les jours et au culte, tout simplement? Si j'offrais à quelqu'un ici, je vais pas vous défier comme ça, mais la somme de 100 000 euros en y mettant une condition, que la personne me danse une petite valse. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup pour 100 000 euros, ils me danseraient devant moi une petite valse. Christopher, pour 100 000 euros, tu danserais la valse devant moi?
Non, je ne sais pas danser.
Non? Non, mais moi non plus. Mais je suis sûr qu'il y en a d'un seul. Ben, c'est une image, vous avez bien compris. Mais vous diriez pas, c'est pas ma personnalité. C'est pas dans ma mentalité. Il y en a, ils diraient, ah, j'ai une maison à payer, moi, tiens, ça tombe bien, ils me donnent 100 000 euros. Je danse, allez, même si je ne sais pas. Et vous danseriez peut-être plus que demandé. Bon, allez, je vous gêne pas avec ça. Au ciel, il faut savoir, frères et sœurs, qu'il y a un livre de vie, vous le connaissez, c'est là où le nom des croyants sauvés est inscrit, nos noms sont inscrits dans le livre de vie, mais il y a un autre livre qui s'appelle le livre de souvenirs, qui éclaire lorsqu'il a été touché par la ferveur de ses enfants, ça vous ne connaissiez pas, vous allez apprendre quelque chose ce matin. Malachie 3, verset 16, « Mais ceux qui sont fidèles à l'Éternel se sont entretenus les uns avec les autres. Et l'Éternel a prêté attention à ce qu'ils se sont dit. Il les a entendus, alors on a écrit un livre devant lui, pour que soit concerné le souvenir de ceux qui sont fidèles à l'Éternel et qui le révèrent, qui sont dans la crainte de l'Éternel. » Vous voyez ça qu'il y avait un livre de souvenirs de chaque fois que vous avez touché son cœur, par votre ferveur, par votre bienveillance, par un geste peut-être que vous avez fait, même envers un frère ou une sœur. Il y a un livre de souvenirs, Dieu n'oublie rien. Tout ce qu'on fait pour lui, rien n'est oublié. Aucun travail pour lui n'est vain. Alors il nous faut nous remettre en ordre de marche. Vous, je ne vais pas trop prolonger, mais vous connaissez Ésaü, le frère de Jacob. Il a vécu pour les biens de ce monde, les biens matériels. Pour lui, un plat de lentilles était plus important que ce qu'on appelait en Israël le droit d'aînesse, c'est-à-dire son héritage spirituel. Son père devait lui remettre, et l'héritage était une bénédiction de Dieu. Et il a préféré le plat de lentilles. Mais sauf qu'à un moment donné, quand il s'est aperçu que son frère avait pris sa bénédiction, et l'avait trompé finalement, avait trompé son père, du moins, il a eu une crise d'angoisse. Il a réalisé ce qu'il avait perdu. Ça a été terrible pour lui. Genèse 27, verset 34. « Quand Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa un grand cri plein d'amertume et supplia son père. « Moi aussi, mon père !» C'est pas forcément une mauvaise nouvelle, hein, pleurez pas. Parce que s'il a pu dire « Ton père bénis-moi », c'est qu'il y avait quand même une autre bénédiction pour lui. Peut-être pas aussi grande que celle qu'a reçue Jacob, mais il y avait encore possibilité de bénédiction pour cet homme qui s'était trompé, qui avait des faux raisonnements, qui n'avait pas mis Dieu en premier dans sa vie, qui n'avait pas mis son héritage spirituel en premier dans sa vie. Mais il a pu crier dans son amertume, il a pu s'exprimer, et il était béni aussi d'une bénédiction particulière, qui était la sienne, mais Dieu l'a quand même béni. Il n'aurait jamais dû faire ce qu'il avait dû, ce qu'il avait fait. Il a perdu son droit d'aînesse. C'était très important. Et il a été béni d'une bénédiction secondaire. Mais la fin était quand même venue dans son cœur. Et quand la fin est là, il y a encore de l'espoir. Il y a aussi cette femme qui avait une perte de sang, et qui veut toucher, elle est déterminée à toucher le bord du vêtement de Jésus. Et Jésus a détecté en moins d'eux sa faim et sa soif. « Qui m'a touché ?» dit-il au milieu de la foule. Et cette femme, la foule s'écarte. Et vous pouvez même dans la foule, Jésus vous verra. Et il sait que vous avez manifesté tel cœur. Si vous avez un cœur pour lui, le focus du Saint-Esprit va venir. C'est toi mon fils, c'est toi ma fille. Et cette femme a pu être guérie. Et à cause de ça, le résultat, c'est que quand les habitants du lieu eurent reconnu Jésus, ils firent prévenir tout le voisinage et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient de leur permettre simplement de toucher la frange de son vêtement et tous ceux qui le touchaient. Et le résultat de cette détermination qu'a eue la femme, ça a déclenché un réveil. Et dans des grandes campagnes d'évangélisation, il y a des fois une personne déterminée qui est venue dans une campagne d'évangélisation et qui a été guérie et ça a déclenché le mouvement pour tous les autres. Alors avons-nous faim, avons-nous soif du Seigneur? En avons-nous assez de notre vie religieuse? Est-ce que notre marche chrétienne palichonne nous satisfait ou est-ce qu'on veut plus? Une vie chrétienne forte, puissante, profonde, glorieuse. Va pas attendre la main. Ne veux-tu pas une vie de plénitude, de connaissance intime de Dieu? En tant qu'Église, en tant qu'individu, est-ce qu'on ne veut pas découvrir l'intimité avec Dieu dans la prière? Le secret de la victoire, de l'abondance spirituelle, la puissance que peut détenir l'Église, l'autorité qu'elle peut avoir. Ne voulons-nous pas, en quelque sorte, marcher sur les eaux miraculeuses? Pierre a tellement vécu dans le miraculeux que même quand il passait quelque part, son ombre guérissait les malades. Que notre ombre perde à l'ennemi. Que notre ombre puisse terroriser même l'ennemi. Et que notre ombre puisse favoriser des conversions, des guérisons. Dieu recherche des hommes et des femmes qui ont faim de Dieu, qui ont faim et soif de lui, pour les faire entrer dans son plan et dans leur destinée. Est-ce que nous voulons connaître ce réveil spirituel, personnel et collectif en tant qu'Église? Moi, j'aspire à des temps de prière puissants, remplis de la présence de Dieu palpable, en repentance, parce qu'on est tellement autosatisfait, notre cœur devient comme du granit. Et la repentance permet que le granit s'en aille. De tels moments donneront lieu à une transformation de nos vies chrétiennes qui sera radicale, une transformation même de notre nature profonde, ce qu'on appelle la sanctification, qui nous imprègne alors de la présence glorieuse de Dieu à nos côtés. Une présence dont nous étions privés autrefois. Nous connaissons aujourd'hui par le biais du sang de Christ versé sur la croix, mais une présence dont on ne profite pas suffisamment parce qu'on ne vient pas suffisamment dans sa présence. Et ce verset pour conclure, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. On va prier le Seigneur, et j'aimerais qu'on prenne en même temps ce chant, Michel le prépare, c'est le 493, dans le j'aime. C'est un chant qui dit « Nous avons faim et soif de toi ». Pendant que les musiciens viennent accompagner ce chant, ils sont forts, ils vont tout de suite trouver, il n'y a aucun doute là-dessus, ça ne fera pas mal du tout, c'est un chant très simple, c'est ce qu'on appelle un petit cœur finalement. Avec des bêtes comme on est ici, ça va aller tout seul, je vais vous aider, mais c'est simple. Quand j'aurai chanté la première strophe,
c'est le chant.
Seigneur, nous voici devant toi. Le 493 dans le gène. Et nous voulons vivre quelque chose ce matin avant de nous séparer. Amen.
Amen.